1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
C'est mardi soir, il est tout juste 18h, soyez les bienvenus pour cette 10e édition du Grand Direct de Radio Django. Autour de moi, autour de la table, Daniel, Marie, Jean-Luc, Fabio et Gabriel, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez tous les bienvenus. Alors pour commencer cette édition, ce soir on commence avec Vivre à Lausanne. Gabriel, ce soir en avant-goût d'un sujet très tendance qu'on entend à toutes les sauces, les démarches participatives.
Très tendance, peut-être trop tendance, on va... faire un petit historique avec Fabio de ses démarches et essayer de poser quelques petites questions qui seront retravaillées par la suite, on y reviendra.
On y reviendra donc dans quelques minutes. Marie, bonsoir, avec toi il sera question de santé.
Oui exact, on parle de l'espace proche à Lausanne. C'est un centre unique en Suisse romande qui accueille et conseille les personnes du canton de Vaud qui accompagnent un proche ou son proche aidante.
Bien, bien, bien. Donc tout à l'heure, dans la rubrique Vivre à Lausanne. Vivre à Lausanne toujours, on n'oublie pas cette nouvelle case qui s'appelle le jeu concours. C'est où ce son? Ben voilà, restez bien à l'écoute, c'est dans 6 ou 7 minutes. 18h20, on passe à la Rose des Vents avec ce soir, Daniel, un nouveau focus sur l'espace mosaïque.
Et on parlera avec l'espace mosaïque de Contes Africains, berceau de la connaissance. Et on abordera ensuite la littérature du Congo Kinshasa.
Exactement.
Une soirée dédiée à la littérature.
Voilà, deuxième volet qui sera une alliance entre La Rose des Vents et Cultivez Lausanne avec Jean-Luc qui te rejoindra, Daniel. Enfin, pour conclure cette émission à 7h-10, nous ferons le tour d'horizon avec l'agenda de Fabio qui s'annonce très garni ce soir. Donc, ce soir justement, on parle aménagement, santé, intégration, compte du Congo et sortie. Et c'est le menu de ce mardi 9 juin 2015. Je suis Fabien, on est ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Allez, on attaque tout de suite cette émission avec la rubrique Vivre à Lausanne.
Radio Django, Vivre à Lausanne.
Alors, on l'a dit, on parle ce soir des démarches participatives. Tu nous as préparé un petit aperçu historique pour comprendre ce qu'on entend lorsque l'on dit cela, Fabio.
Oui, Fabien, c'est bien ça. Bien qu'il y ait eu dans les années 80 des intéressantes démarches d'appropriation par les habitants de leur environnement urbain, ça s'est passé pas mal en Italie d'ailleurs, c'est au début des années 90 qu'on trouve une dynamique plus large. On pense notamment à l'Agenda 21 ou Action 21, qui est un plan d'action pour le 21e siècle sur l'environnement et le développement qui a été adopté par 178 États lors du sommet de la Terre à Rio. C'était en 1992, donc. Plan qui était censé être appliqué au niveau national, régional et local.
Et alors, donc, on va énumérer quelques-uns des principaux engagements de ce plan d'action.
Par exemple, le renforcement de la coopération internationale et lutte contre la pauvreté, la protection de l'atmosphère et la promotion d'un développement agricole et rural, le renforcement du rôle des principaux groupes d'habitants de la planète, davantage de participation, par exemple, des femmes à un développement durable et équitable, le renforcement du rôle des travailleurs et de leurs syndicats, etc. Une petite énumération parmi 40 engagements globaux.
Ouais, quand même. Étant donné que cette liste d'intentions devrait se traduire en une mise en place au niveau régional, pour faire bref, comment cela va se traduire au niveau lausannois?
Par une démarche participative, on y est donc, qui s'est appelée à l'époque Quartier 21 et qui a été mise en place à Lausanne donc entre l'automne 2002 et le printemps 2005 et qui a débouché sur 37 projets dans le but de renforcer la qualité de vie de tous les Lausannois, d'améliorer la vie des quartiers, de faciliter le rapprochement des habitants, les autorités et l'administration.
Bon, bah, c'est un beau programme, mais concrètement, comment cela se traduit dans une dynamique particulière?
Par trois phases auxquelles ont été associés les citoyens et citoyennes. Tout d'abord, les ateliers d'innovation, on les appelait comme ça, où 950 habitants ont exprimé leurs préoccupations et leurs souhaits qui ont pris la forme de 170 propositions, ni plus ni moins. En deuxième phase, les conférences de consensus, où l'on a approfondi les propositions concernant la vie des quartiers, la communication, l'urbanisme, le logement, etc. Et la troisième étape, qui était l'étude de faisabilité et le programme d'action réalisé cette fois-ci par l'administration et les décideurs politiques.
Bon, alors la question bateau est, quel résultat pour tous ces projets?
Bon, on ne va pas le dire maintenant, ce sera justement le thème des émissions dès la rentrée. Mmh. Il sera intéressant, par exemple, d'en parler directement avec les personnes concernées, à la lumière de ce qui a été réalisé ou de ce qui n'a pas pu l'être. On tentera aussi de comprendre les mécanismes de décision.
Cette dynamique de quartier 21 a néanmoins laissé des traces dans les manières des prises de prise des décisions de la plupart des politiques, n'est-ce pas?
Oui, il faut dire que quelque chose a peut-être changé dans ce domaine, en effet. À plusieurs projets d'envergure qui ont vu le jour ou qui sont encore en gestation sur le territoire de la commune ont été conviés les habitants et les habitantes pour participer sur le principe aux décisions. Pensons seulement aux projets métamorphoses ou aux autres processus de concertation dans le cadre de la construction de nouveaux quartiers comme celui du Vallon, par exemple, projet qui est actuellement en cours. En fait, une sorte de trend dont on va essayer d'analyser les tenants et les aboutissants.
Alors justement, on va tenter d'y voir plus clair dans les prochaines émissions, mais Gabriel, tu m'as pas l'air totalement convaincu par ces beaux projets.
Bon, Fabien, je dois avouer que malgré les nombreuses et belles intentions affichées, je reste un peu sceptique. À vrai dire, je trouve même doucement absurde qu'une démarche participative, c'est-à-dire un processus censé permettre à des gens ordinaires de s'impliquer dans leur quartier, soit planifiée officiellement par 178 chefs d'État à Rio, soit par des gens que je fréquente assez peu dans un lieu relativement éloigné de mon quartier. Mmh. On peut aussi se demander ce qu'ils ont fait depuis 1992. Le 21e siècle est quand même déjà bien engagé, et j'ai pas l'impression que le réchauffement climatique se soit arrêté, ni que la surconsommation des ressources naturelles est vraiment ralentie.
Ouais, certes, mais au niveau local, tu n'as pas l'impression que ces démarches participatives permettent une meilleure implication des habitants dans leur ville ?
Bon, je dois t'avouer que personnellement, j'ai un petit problème avec l'autorité, et ça passe pas vraiment malgré l'âge qui commence à venir. Donc quand on parle de faciliter le rapprochement entre les habitants, les autorités et l'administration, je crois que je préfère aller me faire une grillade au bord du lac ou manger du poulet. Mais plus sérieusement, je trouve assez intéressant quand même d'observer qu'après la phase de pêche aux idées, avec 950 personnes, c'est-à-dire moins de 1% de la population, 0,68% pour être exact, et après la phase de formulation collective des projets un peu plus précis, il y a une troisième phase, qu'on appelle publiquement « étude de faisabilité », lors de laquelle seule l'administration et les politiciens envoient au chapitre. En fin de compte, c'est donc eux qui tranchent. Les gens auront beau dire s'ils préfèrent les géraniums ou les bégonias dans les bacs à fleurs, les bureaux de la ville feront quand même leur travail habituel, trouver des investisseurs privés pour financer leur partenariat public-privé. Tout ça pour ça.
Ouais, bon, Gabriel, t'es un peu ronchon. Enfin, si on a envie de rénover ton quartier, tu vas quand même être content, non? Ça améliorera peut-être ta qualité de vie.
C'est vrai, peut-être, mais je devrais aussi sûrement améliorer la qualité de mon salaire, parce que la qualité de mon loyer, elle, j'ai pas trop de doutes sur son progrès après un grand projet de rénovation urbaine. Et d'ailleurs, c'est aussi souvent dans des quartiers sympas et bon marché qu'on lance ce genre de projet? Pourquoi le Vallon et pas un quartier de villa de Puy, par exemple? On pourrait aussi loger du monde en posant quelques blocs HLM là au milieu. Je crois qu'il faudrait vraiment qu'on invite un séjour à Radio Django un géographe qui soit capable de nous expliquer ce qu'est la gentrification. Et plus concrètement, j'ai un peu de peine à croire que tout le monde rêve d'un bel appart tout neuf, Minergie, Eco Plus, ISO 9001, AAA, Planète 21. En tout cas, les gens que je connais, moi, ils rêvent plutôt de dénicher un vieil appart un peu pourri, pas rénové, pas grand, avec des simples vitrages, mais au moins dont le loyer reste à peu près accessible.
Ouais, c'est ça. Bon, grande question. Et on ne manquera pas d'en reparler sur Django à la rentrée d'août. Si ce n'est avant, je sens qu'il va y avoir du débat dans ces émissions, et c'est tant mieux, on aime ça, Radio Django. Merci Gabriel, et merci Fabio pour la collaboration de cette première mise en bouche, comment dire, participative.
C'est où ce son?
C'est où ce son?
C'est où ce son? Sur Radio Django.
Chaque semaine, on vous fait découvrir un son et c'est vous qui devez nous dire où il a été enregistré. Et puis, comme la semaine passée, c'était la première fois, on a eu un gagnant. On vous dira son nom dans un petit instant. On va vous le faire écouter dans un instant, ce nouveau son pour cette deuxième série. Le principe est relativement simple. Vous écoutez le son, vous avez une bonne réponse, vous savez où est-ce que ce son a été enregistré. Eh bien, vous envoyez un petit mail à son@django.fm et vous aurez peut-être la chance de choisir un titre la semaine prochaine et d'avoir votre nom cité à l'antenne. Vous êtes prêts? Alors on écoute ce son numéro 2.
Yeah.
Voilà, vous avez la réponse du lieu où a été enregistré ce son. Eh bien, vous nous envoyez un mail à son@django.fm. Le gagnant sera annoncé avec la bonne réponse la semaine prochaine. Notez que la semaine dernière, c'est Arnaud Nico qui a trouvé la bonne réponse. On écoutera donc sa dédicace dans quelques minutes. Bonsoir Marie.
Bonsoir Fabien.
Alors aujourd'hui, on parle de l'espace proche à Lausanne, un tout nouveau centre d'aide, d'information et de soutien pour les personnes, pour les proches des personnes malades.
Oui, l'espace proche à Lausanne a remplacé il y a peu l'espace Pallium. C'est un centre pour accueillir et conseiller toutes les personnes du canton de Vaud qui accompagnent un proche ou son proche aidante. Par exemple, quand il s'agit de soutenir quelqu'un qui va se faire hospitaliser ou entrer en IMS.
Alors, ce centre se trouve précisément au centre-ville de Lausanne et il est unique en Suisse romande.
C'est exact. Il se trouve à la place Pépinet et c'est le seul centre du genre en Suisse romande. C'est le seul endroit qui est 100% consacré aux proches, c'est-à-dire que la personne malade n'est jamais présente. Mais avant d'en dire plus, je vous propose une petite visite des lieux en compagnie de sa directrice, Christine Burki.
Ce lieu se veut agréable d'accès, c'est-à-dire à partir du moment où la personne entre ici, on aimerait qu'elle se sente à l'aise. Donc, elle va arriver dans un espace qui est un endroit de documentation dans un premier temps. C'est le premier coup d'œil qu'elle va avoir. Ensuite, nous avons une collaboratrice qui a toujours un œil sur la porte d'entrée et qui, dans son bureau, voit les personnes entrer et elle va au-devant des gens pour les accueillir, hein, pour pas que la personne se sente esselée, parce que c'est vrai que de franchir la porte, c'est pas simple. Et puis, il y a un petit coin cafétéria pour que les personnes puissent avoir un café et se sentir aussi chez elles. Elles puissent rester, si elles ont envie de bouquiner un moment, le temps qu'il leur convient. Ensuite, nous avons un petit bureau d'entretien. C'est aussi convivial, on a mis aussi un petit canapé. C'est là que nous sommes à partir du moment où nous sommes plus que deux. Parce que dans nos autres bureaux, il y a encore deux autres bureaux, un bureau où mon autre collaboratrice se trouve, il y a une table et deux chaises où là on peut mener les entretiens individuels. C'est vrai que nous avons des prestations en individuel, des prestations collectives et là dans ces bureaux-là, comme dans le mien qui est juste à côté, il y a une table avec deux chaises, où nous pouvons fermer la porte et être dans l'intimité avec la personne proche. Mais prestations collectives aussi, alors quand il y a du monde, nous avons une salle de formation de l'autre côté, et dans la salle de formation, on installe en fonction du nombre des gens, de personnes qui sont présentes. Nous avons des cafés des proches avec Alexandre Jolien, donc c'est vrai que quand nous avons les cafés des proches, il y a beaucoup de gens. Donc, nous avons 30 et 40 personnes qui viennent et on s'installe donc plutôt dans la salle de formation et l'autre petit salon qui est de l'autre côté.
Un centre d'accueil qui propose de la documentation, des entretiens individuels et collectifs, un espace d'écoute. Et durant ces entretiens, comment ça se passe concrètement, Marie ?
Alors, pour Christine Burki, il s'agit surtout de réveiller les ressources que chacun retient en soi. On l'écoute.
Moi, j'ai l'impression, je pars plutôt de l'idée que la personne, elle a des ressources. Et puis, on part de l'idée que la personne, elle va mobiliser ses ressources existantes, on va faire émerger ses ressources qui sont parfois endormies. Par contre, concernant le réseau existant, on va se permettre de donner quelques adresses à la personne pour l'aider, la soutenir, notamment dans le maintien à domicile. Ça, c'est vraiment que les gens ne connaissent pas forcément tout le réseau. Et c'est pour ça qu'on est aussi un centre d'information, d'informer ce qui existe dans ces situations pour que le proche ne s'épuise pas.
Alors, accompagner la personne et l'informer des aides qui existent. Et sinon, Marie, qui sont les gens qui viennent à l'espace proche ?
Alors, toutes les personnes qui entourent et accompagnent quelqu'un qu'ils aiment et qui est malade. Christine Burki nous raconte l'exemple d'une femme dont la vie a basculé quand son mari a commencé à être atteint d'une paralysie.
J'ai l'exemple d'une femme qui est venue, son mari a eu une hémiplégie, donc atrophie du côté gauche, et monsieur est à domicile, mais madame voit sa vie complètement bousculée parce qu'elle doit l'aider à la toilette, couper ses aliments pour quand il mange, il peut plus lui donner un coup de main à la maison alors qu'il y avait une répartition des tâches, et puis il peut plus sortir tout seul parce qu'il risque de chuter étant donné qu'il n'a pas l'habitude de cette immobilité. Donc la vie de madame bascule. Au début, elle va tout faire, tout porter toute seule. Tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'il y a un épuisement. Et puis, elle, par ses propres sources, elle apprend qu'on existe. Et puis, avec elle, c'était de voir dans quelle mesure elle avait envie de rester auteur de la situation, donc de ne pas être dépossédée par des professionnels, mais dans quelle mesure elle avait envie d'être soulagée. Est-ce que c'était plutôt les soins à son mari, donc de faire des toilettes, que c'était quelqu'un du CMS qui allait venir? Est-ce que c'était une personne bénévole pour qu'elle puisse avoir une après-midi de congé dans la semaine? Qu'est-ce qui allait lui convenir à elle? Et forcément, les situations se modifient. Donc là, la personne, elle peut nous recontacter, elle peut revenir quand il y aura une dégradation, un changement dans sa situation.
Alors l'espace proche, on l'entend, tente de trouver des réponses les plus adaptées aux besoins des proches. Est-ce que les jeunes sont également concernés, Marie ?
Oui, bien sûr, la maladie touche tout le monde et pas seulement les personnes âgées.
On a des jeunes qui viennent, c'est sûr, parce que la maladie touche tout le monde. Là, je pense à une autre situation d'un couple jeune qui n'avait pas d'enfant. Et lui, il a une maladie dégénérative extrêmement rapide. Donc tout bascule dans le sens où ils avaient des projets d'enfants. Il n'y en aura pas. Il y aura même un décès en vue. Donc oui, comment vivre ce moment-là, cette situation-là, avec des bouleversements. Mais ça peut être aussi l'attachement à une grand-maman ou à sa maman qui va être malade ou qui vit une maladie ou qui va être hospitalisée ou tout d'un coup on est dans l'attente d'un pronostic. Hein, et on se dit, s'il est mauvais le pronostic, je vais réagir comment? Il n'est pas encore là, mais le souci, il est bien réel, il est bien là. Oui. Non, les jeunes viennent, heureusement.
Alors là, on parle surtout des maladies physiques. Est-ce que les maladies psychiques sont également présentes?
Oui, tout à fait. Et finalement, comme nous le dit Christine Burki, tout le monde a été un jour ou l'autre dans cette situation.
Les gens viennent nous voir. Il y a une association comme le GRAP qui fait un immense travail. Mais comme je disais pour les autres associations, la personne malade est aussi présente. Donc c'est vrai que les gens viennent aussi dans ce lieu parce qu'il est neutre. Il n'y a pas de stigmatisation liée à la maladie. Et nous sommes tous proches. Donc c'est vrai que finalement, si on réfléchit, être proche ou proche aidant, mais en tout cas, le positionnement de proche, si on réfléchit, on l'a tous été une fois. Hein, que ce soit pour un enfant parce qu'il est malade et qu'on se fait du souci, ou pour quelqu'un de plus âgé. À partir du moment où on aime les gens, on peut se trouver dans une situation de proche.
Le centre espace proche répond donc à un réel besoin, on l'entend. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, il est unique en Suisse romande. Finalement, Marie, est-ce que ces prestations sont gratuites?
En effet, Fabien, le soutien et les conseils prodigués sont gratuits. Il ne faut donc pas hésiter à aller toquer à la porte de l'espace proche à Lausanne. Et j'aimerais aussi ajouter qu'il existe des groupes de deuil. À nouveau, ici en Suisse romande, il y a très peu de places pour les proches endeuillés. Et une fois que le décès survient, un accompagnement peut également s'avérer très précieux. L'espace proche offre des rencontres pour y répondre. Mais là, par contre, c'est payant. Bon, c'est pas grand-chose puisque les 8 rencontres coûtent 80 francs et 50 francs pour les étudiants et les bénéficiaires de l'AVS et de l'AI.
Merci Marie pour ces précisions et on remercie également Christine Burki, directrice de l'espace proche à Lausanne, qui, rappelons-le, se trouve à la place Pépinet numéro 1, au plein centre de la capitale vaudoise. Et pour davantage d'informations, eh bien, on vous redirige directement sur notre site www.django.fm. Pour revenir à la musique qui va suivre, c'est le résultat du concours qu'on a fait tout à l'heure, et c'est Arnaud Nico qui a gagné le concours de la semaine passée, on le précise, et la réponse était au parc de Milan. On le reconnaissait avec une fontaine, les oiseaux et les tables de ping-pong. Vous pouvez réécouter tout ça sur notre site www.django.fm.
Le papa du papa papa du papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nounou. Lui, son nom, c'était Aimé Dépêche, elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, vous allez voir la suite. Le papa du papa de mon papa s'affolait pour les mollets. De la maman du papa de mon papa qui rêvait de convoler. Quand Aimé lui dînait les jolis mollets moulés de la mon Amélie, elle frétillait, tortillait comme l'anguille à l'anguille. Et de fil en aiguille, il est arrivé ce que vous pensez. Aimé a pris d'assaut les faveurs d'Amélie, voulait lui refuser. Mais papa du papa de mon papa a dit je suis pas un pourceau. Je voudrais pas qu'à cause d'un faux pas une fille tombe dans l'eau propre du ruisseau. Je vais de ce pas demander à son papa la main de la belle Amélie Vite, qui de ce fait va devenir Amélie Dépêche. Et leur fils, le papa de mon papa, qu'on nomma Yvan Dépêche, eut pour fils mon grand-papa Guilo, qui était un saint, c'était 5 kilos de pêche. Qui en bégaya eu 3 jumeaux, mon papa, mon tonton de Dépêche, et ma tata qui s'appelle Pelle Dépêche à la ligne. Tata Line épousa un noyau et une pourfille avait des noyaux de pêche. Amédée épousa un beau sac pour devenir beau sac de noyaux de pêche. A un fils doté de 3 prénoms, un souvenir de ses glorieux ancêtres, Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche. C'est mon cousin Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche.
Bobby Lapointe, le papa du papa.
Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir, dans La Rose des Vents, les contes africains sont à l'honneur, Daniel.
Oui, le conte africain reste le berceau de la connaissance. C'est en somme la conscience et l'inconscience d'un peuple.
Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Julien. Bienvenue sur les ondes de Django.
Merci.
Vous êtes un ancien bénévole de l'espace Mosaïque, un lieu de rencontre, vous le savez, développé par l'association Appartenance, c'est pour les personnes migrantes. Alors, avant de parler de ces contes africains, ce qui va nous intéresser ce soir, une question générale, comment est-ce que vous avez découvert l'espace Mosaïque et qu'est-ce que ça vous a apporté ?
En tant que migrant moi-même, je me suis intéressé à la cause des migrants et... sur Internet, j'ai découvert l'espace Mosaïque. Je me suis rendu, j'ai proposé mes services et c'est comme ça que je suis devenu bénévole, formateur d'adultes en français langue étrangère.
Et dans quelle mesure est-ce que vous êtes impliqué dans l'organisation des ateliers de français proposés par l'espace Mosaïque ?
Moi-même, je donne des cours. Je donne des cours 2-3 fois par semaine.
Des cours de français,
donc. Des cours de français, oui. Et puis, voilà.
Mais vous occupez également de la gestion, de la coordination.
Oui, ces derniers moments, je m'occupe de l'organisation, de la coordination des activités, des différents bénévoles. Enfin, je gère tout ce qui est en rapport avec les cours de français à l'espace Mosaïque.
Et passionné par les contes, pensez-vous que justement le conte qui renvoie en fait à la tradition orale et à une certaine manière de penser, pour apprendre le français finalement reste un bon outil, un bon vecteur ?
Oui, parce que le conte véhicule le conte est d'abord ludique et du point de vue de cet aspect, il y a beaucoup de leçons, on découvre beaucoup de paysages, beaucoup de symboles qui peuvent parler aux gens et on peut utiliser ces différentes images pour véhiculer des leçons ou des messages, des informations qui...
Donc ce sont des métaphores qui permettent de donner du sens.
Oui, beaucoup.
Et de s'approprier peut-être certains mots.
Oui.
Et quelle est votre expérience des contes africains ?
Chez moi, dans mon pays, ça se passe depuis le bas âge, depuis l'enfance. On nous raconte des contes, on nous éduque avec les contes africains, de sa part du grand-père au père, du père au fils, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai baigné dans cette atmosphère. Les nuits, on nous rassemblait autour devant la case, et puis voilà, on nous racontait des contes avec le feu.
Qui vous racontait des contes quand vous étiez enfant ?
Soit c'est le grand-père, souvent c'est la grand-mère, ça dépend.
Est-ce que vous pourriez mettre des mots sur cette atmosphère autour de la case et du feu ?
Oh, c'est du rêve pratiquement. C'est aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui s'est passé pour moi, c'est comme un rêve de vivre dans ce monde avec entouré de cousins, d'oncles, de grands-parents, et puis vous partagez des moments ensemble où on discute. Là, en ce moment-là, la parole est libre, il n'y a pas de n'y a pas d'aîné, il n'y a pas de il n'y a pas de grand frère ou il n'y a pas de grand-père, on dit ce qu'on pense et ça, c'est seulement au niveau du conte qu'on peut voir ça en Afrique.
Et dans quelle mesure vos origines ivoiriennes ont-elles un lien avec votre passion des contes africains?
Ah oui, comme je le disais, j'ai grandi dans ce climat et puis bon voilà, je me suis approprié les contes aujourd'hui, si je peux utiliser ce mot, et ça me plaît et je le dis même à mes enfants. La nuit ici en Suisse, ils sont couchés sur leur lit et puis bon voilà.
Vous leur racontez des contes. Voilà. Avec une touche personnelle, semble-t-il.
Oui, j'essaie. Comme je ne suis pas un conteur professionnel, j'essaie.
Donc vous faites de l'improvisation sur les contes.
Oui. Merci.
Que traduisent les contes de manière générale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, voire en Afrique du Sud ou ailleurs dans le monde?
Oui, mais le conte, c'est, comme vous avez dit en introduction, c'est la connaissance, c'est le monde imaginaire de tout un peuple. Et puis ça renvoie à nos origines, à ce que peut-être des gens qui ont vécu essaient de nous transmettre, et nous qui n'étions pas là. Et nous aussi, on se sert de ce message pour aussi informer d'autres personnes. Et donc ça crée un lien finalement, un lien avec nous aujourd'hui et tous ceux qui sont nos ancêtres.
Donc c'est dans l'idée de garder ce lien avec les ancêtres.
Ouais.
Sachant que le conte a une dimension universelle, quelle place occupe finalement dans les contes, dans les pays africains, la faune et la flore? Est-ce que c'est vraiment des éléments de référence?
Beaucoup.
Vous pourriez nous donner quelques exemples?
Oui, chez nous par exemple, l'arbre à palabre par exemple, sous lequel on se réunit et... c'est un arbre qui existe au beau milieu du village et ça fait peut-être 300, 400 ans que l'arbre est là. Et donc, c'est un arbre qui a vu passer des générations de personnes. Et voilà, donc ça témoigne bien de cette vitalité et puis de ce lien qu'il y a entre nous les vivants et ceux qui sont disparus.
Et quel est le rôle des animaux? Parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans les contes africains.
Oui, certaines fois, pour ne pas nommer peut-être des personnes un peu trop influentes dans le village ou dans la région, on confie ce rôle à un animal. Donc voilà, ça passe mieux comme ça.
Mais au bout du compte,
tout le monde finit par savoir qu'on parle d'une...
Vous disiez à l'instant que vous lisez ces contes à vos enfants. Comment est-ce qu'ils le vivent avec la culture suisse romande?
Comment ils le vivent? Ils sont très heureux quand je leur lis le conte.
Mais vous le racontez en Afrique, on le fait autour de l'arbre,
ça je le lis, je raconte ces contes quand ils sont au lit, ils sont couchés, au lieu de leur chanter peut-être une berceuse, je lis un conte, c'est mieux pour moi.
Est-ce que ça prolonge quand même un petit peu cette atmosphère qui peut être faite en Afrique?
Bon, c'est pas la fête. Hein. Ici, c'est pas la fête. Quand je leur lis le conte, avant que je ne finisse, ils s'endorment.
Ils sont déjà dormis.
Oui, ça les apaise, bien au contraire.
Faute d'avoir un feu, vous avez un micro. Ouais. On va vous demander de nous lire un conte d'Ogo, du pays d'Ogo.
Ouais, c'est un conte du pays d'Ogon.
Pardon. Ouais.
Ça vient du Mali. C'est pourquoi la cola est-elle le symbole du mariage? Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi très puissant qui avait une très belle fille. À sa naissance, il avait placé entre les trois branches d'un arbre, devant le palais royal, un canari en or et promis de donner sa fille en mariage à qui le ferait descendre. Comme la princesse, l'arbre grandissait. Quand la jeune beauté eut l'âge de se marier, l'arbre mesurait une cinquantaine de mètres et son tronc était épineux. Le roi renouvela sa promesse. 5 années durant, beaucoup de jeunes gens essayèrent de descendre le canari d'or, mais aucun n'y parvint. Le tronc d'arbre était devenu comme un fétiche. Chaque semaine, on lui offrait du sang. Très loin de ce royaume, vivait un homme lui aussi décidé à tenter sa chance. Tout le village se moqua de lui. Même les bien portants n'ont pas réussi. Comment toi, un malade, peux-tu prétendre y parvenir? Il partit un matin de très bonne heure. En chemin, il rencontra une vieille femme en train de cultiver son champ. Il la salua et l'aida toute la journée. Le soir venu, la vieille lui demanda d'où il venait et où il allait. Il lui raconta son histoire. La femme le soigna tout d'abord, puis le transforma en lépreux. Elle sortit ensuite une noix de cola et la divisa en deux. Elle lui en donna une moitié comme talisman ainsi qu'une pierre magique. Après cela, le jeune garçon s'en alla passer la nuit au village royal. Au petit matin, il invita tous les villageois à assister à l'ascension de l'arbre. Le roi donna lui-même le coup d'envoi. Le lépreux escalada le tronc en lui donnant des coups de pied et de main, s'assit sur une branche et se saisit du canari. Les hôtes du roi applaudirent et acclamèrent le lépreux. Il redescendit, le canari d'or dans sa main droite, donnant de nouveau des coups de pied et de main contre le tronc, rougi par le sang des malheureux candidats qui l'avaient précédé. Il alla déposer le trésor aux pieds du roi, qui lui donna sa fille en mariage, ainsi que la moitié de sa fortune. Le lendemain, l'homme partit avec la fille. Ses servantes, les présents offerts par le souverain... L'homme partit avec sa fille, ses servantes et les présents offerts par le souverain. En chemin, il s'arrêta chez la vieille femme qu'il avait rencontrée la veille pour la remercier. Avant d'entrer chez elle, il donna la moitié de sa kola à son épouse. Après avoir pénétré dans la maison de sa bienfaitrice, cette dernière le transforma en personne bien portante et lui remit l'autre moitié de la kola. Quand le jeune homme ressortit, sa femme refusa de partir avec lui car elle ne le reconnaissait pas. Alors le jeune homme sortit la moitié de la kola qui était dans sa poche et demanda à l'autre à sa femme qui la lui rendit. Il rassembla les deux moitiés, reconstituant ainsi la kola originale. Sa femme accepta alors de partir avec lui. Depuis ce jour, la noix de kola symbolise le mariage.
Une dernière petite question, Julien. Est-ce que vous pensez qu'avec la modernité de notre monde actuel, les contes continueront à rester ancrés dans la culture africaine ?
Oui, mais peut-être d'une façon différente. On ne va plus les dire, mais peut-être qu'ils seront écrits. Voilà, ça serait le support, le livre.
Et vous continuerez à les lire.
Oui.
Merci beaucoup, Julien, de nous avoir fait partager cette passion. Longue vie aux contes, comme le dit bien Manfei Obin, musicien et conteur ivoirien. Et merci, Daniel, pour la préparation de ce sujet.
Retrouvez cette chronique en podcast sur django.fm.
Ce soir dans la Rose des Vaux, toujours plein feu sur la littérature du Congo RDC avec Yannick Mediaka, membre d'Elengo. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es jeune de l'association congolaise dont les activités visent à promouvoir la culture congolaise en Suisse. On vous a déjà reçu plusieurs fois ici sur les ondes de Radio Django. Alors Yannick Mediaka, vous avez grandi au Congo et est arrivé en Europe à 15 ans. Jeune adulte, vous développez un goût certain pour la littérature africaine, surtout congolaise. Comment s'est développée cette passion ?
En fait, moi j'ai déjà... Au Congo, j'ai eu la chance de tomber sur un prof de français qui était lui-même auteur, poète, qui m'a un peu donné ce goût de la littérature. Puis j'avais un peu perdu, c'est là. Et puis en arrivant ici, j'ai vu qu'il y avait des possibilités, il y avait des moyens de faire des recherches. Et puis il y avait une sorte de nostalgie aussi, et puis un besoin de renouer aussi avec les racines.
Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour vous ?
Oui, oui, c'est très très important, oui.
Pour quelle raison la littérature du Congo-Kinshasa est-elle si longtemps restée méconnue en dehors des frontières nationales ?
Alors, il faut dire qu'il y a eu la censure hein, dès le début déjà de la littérature du Congo. Donc, il y a eu la censure sous l'ère coloniale. Donc, pendant la colonisation, il y avait un réel besoin, enfin, il y avait une volonté politique de la part de l'administration coloniale belge d'isoler un peu le Congo et puis d'isoler tout ce qui se faisait en matière de culture, tout ça. Donc. Et puis il y a eu aussi un deuxième temps, en fait, sous l'ère de la dictature de Mobutu. Donc plusieurs choix politiques qui ont fait que ça isolait encore plus le pays et donc cette littérature.
Et c'est à l'époque où, en fait, il y a eu ce phénomène d'authenticité.
Oui, exactement.
Où, en fait, on a muselé la presse, la télévision,
exactement,
et la radio.
Exactement.
Et il semblerait aussi qu'il y ait eu un événement majeur autour des maisons d'édition.
Oui, les maisons d'édition, oui, parce que... Les choix, c'est justement ces choix politiques qui ont mené le pays un peu au bord du gouffre, a fait que
les canaux de diffusion
ont été très très marqués par cette crise, justement la crise due à cet état au bord du gouffre. Il y a aussi comment dire, le système scolaire hein, qui a été laissé à l'abandon, ce qui a fait qu'il n'y avait pas de politique pour encourager la lecture, tout ça, les diffusions, enfin, la diffusion des livres, tout ça. Donc, voilà.
Et il semblerait aussi que les écrivains et les éditeurs, en fait, payaient des taxes énormes.
Exactement, ouais.
Et qu'il y avait certaines conditions, effectivement, qui n'étaient pas aisées et que ce n'était pas du tout encouragé. Et il semblerait qu'il y avait un gros problème aussi au niveau des livres proposés dans les écoles. C'est-à-dire oui. qu'on se limitait, en fait, à un certain lectorat et on écartait tous les autres.
Exactement.
Et pourtant, la production littéraire du Congo-Kinshasa demeure d'une grande richesse et d'une grande diversité, comme l'atteste le monument de Sylvia Riva, Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa. À quelle période se situe le passage de la tradition orale à l'écriture ?
Alors, je crois que ça se situe au début du XXe siècle. Hein. Au début du XXe siècle, donc, il y a eu des auteurs clés qui ont justement marqué ce passage de l'oralité à l'écrit.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'aînée Marianne et qui était-elle ?
Alors, Nelly Marianne, c'était une poétesse qui était justement connue pour avoir écrit des poèmes très, très engagés, disons, qui dénonçaient justement ces systèmes coloniaux assez discriminatoires envers ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. Donc, voilà.
Et ce qu'on a appelé par la suite les évolués ?
Les évolués.
Ce serait intéressant que vous puissiez nous expliquer qui étaient les évolués.
En fait, les évolués, c'était un peu un terme péjoratif pour désigner ces...
Les intellectuels.
Les intellectuels, voilà. Une sorte d'élite, quoi, qu'on a voulu créer. Voilà, une élite qu'on a mis un peu dans l'administration, qu'on a formée comme ça. Donc, on les appelait les évolués.
Aussi les longs crayons.
Alors, je n'ai pas... j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce terme. Plutôt évolué, mais non, j'ai pas.
Il semblerait, pour revenir en fait à l'histoire de ces grands écrivains donc qui ont marqué les débuts de la littérature au Congo, que Nelly Marianne a été une précurseur par rapport au mouvement de la négritude, qui a commencé dans les années 30 en fait en Afrique francophone, mais elle a quand même devancé l'Afrique de l'Ouest déjà dans les années 25, je crois.
Oui. Il y a, on a retrouvé des poèmes à
des
elle.
Des traces.
Ouais, des traces justement qui parlaient justement des poèmes qui étaient très très engagés pour l'époque. Donc,
pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que le mouvement de la négritude ?
Bon, c'était un mouvement qui a été lancé, je crois, en France par Léopold Sédar Senghor et puis Aimé Césaire. Il y avait Léon Gontra Damas aussi. Donc, en France, c'est un mouvement qui, c'est une façon de se revendiquer justement, le fait d'être,
La négritude.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on entend par négritude en fait ? C'était une manière de s'opposer à la colonisation.
Oui, c'était un mouvement clairement anticolonialiste.
Ouais. C'est un outil de résistance et de
Exactement.
Revendication. Et dans quelle mesure les auteurs congolais, à partir des années 40, en fait, ont suivi ce moment ? Parce que ça a mis du temps à s'installer au Congo à cause de la colonisation. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les auteurs qui se sont penchés, en fait, sur ce genre littéraire ?
Alors, il y a eu, bon, justement, vous avez cité Nelly Marianne, j'ai pas eu beaucoup d'ouvrages, justement. Mais il y a des auteurs comme Antoine Roger Bolamba et puis
d'autres auteurs.
Ça me revenir, oui.
Parce que la littérature est plutôt riche, contrairement en fait à ce qu'on pouvait méconnaître à l'étranger. Mais si on regarde en fait l'évolution de la littérature du Congo-Kinshasa, après les indépendances, c'est une littérature qui est restée très stratifiée. Trois périodes en fait se succèdent, des années en fait 60-70 aux années 80-90. Et dans quelle langue finalement ont écrit les écrivains congolais à partir en fait des années 70 ?
Alors des années 70, donc ils ont écrit beaucoup en français parce que juste après l'indépendance, on a privilégié beaucoup le français à l'école. Hein. Donc c'était vraiment devenu la langue de l'enseignement par excellence. Donc on a senti un peu une frilosité de la part des écrivains. Donc d'écrire dans les langues locales. Donc ils ont plus privilégié le français donc dans les publications. Donc voilà, ça c'est un peu le paradoxe congolais quoi, parce qu'on a quand même le français qui est une langue du pouvoir, de la connaissance. Puis de l'autre quand même c'est une langue qui est très peu utilisée. Donc c'est pas vraiment une langue populaire. Donc
Mais à votre avis, pourquoi est-ce que les premiers écrivains qui se situent entre les années 60 et 80 ont choisi d'écrire en français, alors qu'à plutôt à partir des années 90, on a justement différents écrivains qui ont décidé d'écrire dans d'autres langues, comme le Kiswahili ou le Chiluba ou le Kikongo? Mais s'explique en fait ce...
Ouais, je crois que c'était bien vu d'écrire en français, c'est-à-dire, ouais, ça faisait intellectuel. Il n'y avait pas une honte, mais c'était très bien vu d'écrire en français, donc. Voilà.
Certains auteurs parlent en fait de sous-culture coloniale, mais heureusement c'est vivement contesté aujourd'hui, je crois, avec les nouveaux écrivains. Et dans quelle mesure pourrait-on dire finalement que la littérature en fait participe à la construction d'une nation?
Parce que la littérature, elle peut justement, ça peut être un outil didactique. Puis des prises de conscience aussi.
De prises de conscience. Ouais. Et en parlant de prises de conscience, on sait que beaucoup d'auteurs, en fait, ont décidé de s'exiler. Et on parle de littérature de l'exil.
Sobina kozonga mopembo ezalinde liwateo nakei kasilobina kozonga
yama
mopembo ezalinde liwateo
totika bamboka musika tukende koluka bomoima tokoma mitelengano namboka mopaya Nani ya sungayo pasina pasie
Nakei kasi lobi na kozonga
Atandeleo
Mopembo ezali ndeli
wateo
Nakei kasi lobi na kozonga
Oyanga bako yambanga
Mopembo ezali ndeli wateo
Kozonga mboka
Nakei kasi lobi na kozonga
Aye bayama Atandeleo Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie ninyokolo Boka ya mupaya pasibaninga Atandele Tokozonga Kinshasa Pempeni abayeba Ndakayo Atandele Tokozonga mboka o Boka babo tabiso Atandele
Nakei Kasi lobi na kozonga
Na kozonga
Mopembo Ezali ndeli wate
o Baninga
Nakei Kasi lobi na kozonga
Zali seloko yangonga
Mopembo Ezali ndeli wate o
Lobi tokozonga mboka
Nakei Kasi lobi na kozonga
Lobi tokozonga
Mopembo
Ezali ndeli wate
Lobina kozonga
Mopembo
Ezali ndeli wateo
Nakei
Kasi lobina kozonga Kinshasa mame
Mopembo
Ezali ndeli wateo
Nakei Kasi lobina kozonga Mopembo Ezali ndeli wateo Nakei Kasi lobina kozonga
Alors merci à Lokua Kanza pour ce beau titre autour de l'exil et Elengo en fait est également en exil en Suisse. Il serait intéressant de comprendre sur quoi portent les sujets en fait que nous laissent découvrir les écrivains de l'exil.
Alors ce qui peut paraître paradoxal, c'est que dans cet exil, il y a eu deux catégories d'écrivains. Il y a des écrivains qui malgré l'exil, n'ont pas coupé le cordon justement avec le Congo, qui ont continué à dénoncer quand même la réalité sur au Congo, la dictature, férocité, donc cette violence liée à la dictature, la misère, tout ça. Puis bah, de l'autre côté, on a des écrivains qui eux, ils sont adaptés en fait à leur lieu d'exil, quoi. Ils ont commencé à publier des romans justement par rapport au lieu où ils sont établis. Donc, voilà.
Donc on assiste au développement d'un nouveau genre littéraire.
Oui, alors je crois que tu as vraiment envie de parler d'un livre particulier en fait, pour illustrer en fait ce que tu as dit tout à l'heure, et je crois que ça serait bien que tu parles de ce livre, c'est de Zamenga Batukadzenga, et ça serait bien que tu nous présentes cet auteur.
Oui, alors Zamenga, c'est un écrivain congolais. Zamenga Batukadzenga, il est né le 20 février 1933 dans la province du Bas-Congo. Il fait ses études supérieures au Congo et puis obtient par la suite une bourse qui lui permet d'étudier en Belgique. De retour au Congo, il pratique plusieurs métiers en relation avec le social, d'abord à l'université de Kinshasa, puis chez General Motors comme chargé des affaires sociales et par la suite dans un centre de réhabilitation pour jeunes handicapés. Puis en 1980, il se dédie totalement à l'écriture.
C'est un parcours très particulier quand même.
Oui, oui, pour un écrivain en tout cas, ouais. C'est très particulier.
C'est pour ça que tu l'as choisi ?
Alors je l'ai choisi parce que c'est un écrivain qui marque, quoi. Et puis c'est aussi pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage, parce que c'est un écrivain très populaire au Congo, donc, et puis finalement très peu connu à l'extérieur. Donc c'était aussi un hommage à Zamenga.
Mais qu'est-ce qu'il y a de remarquable chez lui ? En fait, c'est sa manière d'écrire, c'est ses textes, c'est l'imagination qu'il y a derrière. Il parle beaucoup de la réalité, je pense.
Oui, exactement. Voilà, l'œuvre de Zamenga, c'est un tableau qui peint vraiment qui peint la réalité du Congo telle quelle, quoi. Il n'y a pas de, enfin, il passe pas par quatre chemins. C'est un tableau qui peint la réalité du Congo.
D'ailleurs, parmi tous ces ouvrages, tu en as choisi un tout petit, hein, que j'ai ici, qui est très joli. En plus, il est bien illustré. Je crois que c'est lui qui faisait une partie des illustrations.
Oui.
Parce qu'il a toujours été très intéressé par la bande dessinée,
hein,
qui est
quand même,
très populaire aussi au Congo. Donc, il s'appelle La Mercedes qui saute les trous.
Oui.
Nom assez.
Oui.
Donc, ça serait bien de nous parler un petit peu de ce livre.
Ouais, La Mercedes qui saute les trous. Donc, l'histoire se passe au Congo, comme la plupart des romans des Zamenga. Donc, c'est un jeune père de famille qui s'appelle Diour, qui a été promu donc président directeur général d'une entreprise minière. Ça se passe à Lubumbashi exactement. C'est à l'est du Congo, donc dans une province minière. Donc, il a été promu et puis tout de suite la nouvelle se répand et puis on a le chef de la tribu qui vient avec toute la tribu presque pour fêter ça. Et puis, bon, ils font comprendre que bah, voilà, il faut. Maintenant que tu occupes un bon poste, bah, ça veut dire que la tribu doit en profiter, exactement, comme ça se passe au Congo d'ailleurs. Hein. Donc, on le voit quand il y a. Au Congo, on a ce problème de tribalisme, exactement, c'est écrit dans le livre. Donc, quand on a un président qui arrive d'une tribu, donc on a tous les postes clés sont occupés par les gens de sa tribu, c'est toujours le même langage, donc on est vraiment dans la réalité, quoi.
Mais ce qui est intriguant, d'ailleurs, c'est qu'en fait, après, il fait parler les chauffeurs de ses patrons.
Exactement.
Et c'est vraiment, là, il dépeint, c'est assez cynique, c'est assez incroyable.
Voilà. Exactement.
Et il semble que toi, tu as vécu aussi quelque chose comme ça. Alors, parle-nous de ces chauffeurs, en fait, qui observent toute cette vie et puis, en fait, qui dénoncent, en fait.
Ouais. Il y a ce chauffeur qui s'appelle Karl dans le roman, justement, le chauffeur qui est aussi, donc, le PDG, lui, a une voiture de fonction, une maison de fonction, et puis la voiture, c'est la Mercedes, justement, la voiture de fonction qui lui est attribuée par l'entreprise, et puis il cherche un chauffeur, et puis il trouve ce Karl, ce beau jeune homme, tout ça, et puis qu'il paye finalement très très mal, quoi. Donc, puis, il accompagne partout, lui dans ses excès, dans ses fêtes où ils vont, avec d'autres patrons, montrer leur puissance, puis à côté, t'as les chauffeurs qui sont là en attente, dans une misère pas possible, et puis donc voilà, et l'auteur justement dénonce justement cette réalité qui existe. D'ailleurs, moi j'ai vécu une histoire comme ça où j'étais au Congo récemment et puis j'avais un chauffeur de ma cousine qui m'emmenait un peu partout, tout. Donc, et puis bah voilà, et à un moment il s'est lâché, puis on a commencé à discuter et puis il m'a parlé justement de son salaire permettait pas de vivre, qui était vraiment maigre. Donc,
C'est pour cette raison que Zamenga est aussi populaire aussi.
Exactement, parce que les thèmes des Zamenga, c'est des thèmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est des thèmes qui sont éternels, quoi.
Parce qu'il paraît qu'il y a énormément de livres qui sont sortis. Moi, j'ai lu qu'il y avait 1 million de livres qui étaient sortis, de publications. Donc, ça veut dire que malgré le fait qu'on dit que les gens ne lisent pas beaucoup, quand même, 1 million de livres qui sont vendus, de Zamenga, c'est énorme.
Oui, c'est énorme, parce que Zamenga, c'est aussi une littérature très, très accessible. Hein. Donc, le roman, vous pouvez le lire, il est tellement simple, c'est bien écrit, c'est vraiment accessible à tout le monde. Quoi. Donc, je pense que c'est une des raisons aussi du succès de ce livre.
Mais on peut caractériser son style, en fait.
Alors, je dirais, moi, c'est un écrivain qui, comment dire, qui, déjà dans la simplicité de l'écriture, c'est un écrivain qui a toujours opposé les
traditions, modernité.
Ouais, il a toujours opposé ces grands thèmes de tradition, modernité, qui à un moment donné étaient devenus, comment dire, qui étaient des sujets
des frictions.
Des frictions, oui, exactement.
Mais d'ailleurs, par contre, on dit de lui qu'il c'est un écrivain de la réconciliation. Pourquoi ?
Alors, écrivain de la réconciliation, tout simplement, parce que Zamenga, faut justement replacer le contexte. On est dans les années 70, justement, où on est 10 ans après les indépendances, où la société est en train de se chercher. On cherche un modèle et puis on ne sait pas s'il faut rester sur les traditions congolaises ou il faut quand même partir sur ce modèle qu'ils appellent moderne, influencé par l'Occident, tout ça. On est déchirant entre les deux. Et puis d'un côté, il y a un mouvement qui est lancé par le président Mobutu là, qui s'appelle le recours à l'authenticité. Donc on revient aux valeurs africaines parce qu'on se cherche aussi. Et puis, ouais, il y a des écrivains qui fustigent justement certains politiques qui tiennent ces discours de l'authenticité. Et puis, de l'autre côté, ils vivent dans l'opulence à l'occidental. Puis Zamenga, justement, il vient et dit, écoutez, on peut facilement vivre avec les deux thèmes. On peut allier tradition et modernité sans problème. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'écrivain de la réconciliation. Il a réconcilié les deux mondes, en fait.
Et puis, ça nous ouvre justement de nombreux chapitres qui sont possibles au niveau de la littérature Congo-Kinshasa, qui, on le sait et on l'a entendu ce soir encore une fois de plus, est très très riche, puisque Sylvia Riva dit qu'il reste énormément d'ouvrages et de manuscrits, même des ébauches disponibles au Congo-Kinshasa. Merci beaucoup Yannick Mediaka d'être venu nous parler ce soir.
Juste un mot pour quand même dire que Sylvia Riva, elle a édité à l'Armaton, donc c'est un livre qui est top. Et à Basta. On peut faire un petit peu coup de pub pour Basta. Aussi.
Voilà, le rendez-vous est pris, donc rendez-vous à la librairie Basta, entre autres pour aller chercher ce livre. Et merci également à Daniel et à Jean-Luc pour ce sujet littéraire africain. Entretien retrouvé sur notre site django.fm. Et on se tourne du côté de l'agenda culturel, Fabio.
Oui, merci Fabien. Resalut.
Re.
La culture, Fabien, ce n'est pas seulement, comme le dit le Larousse, l'enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels, mais aussi l'ensemble de signes caractéristiques du comportement dans un groupe social donné. Tu me suis ?
Pour le moment, oui, mais j'attends la suite.
On peut donc dire qu'une caractéristique culturelle des Lausannois, l'été notamment, bien sûr, c'est leur enthousiasme pour les pique-niques, les jeux de plein air et la rencontre dans les parcs. Ça fait donc partie de la culture, c'est de la culture. Donc, elle a de la place dans cet agenda.
Voilà, CQFD, je suis convaincu. Bon, et alors ?
Alors, on va parler de ces endroits où cette culture se voit et se vit. Quel meilleur décor de théâtre que les parcs de la ville où on peut farnienter sur l'herbe ? Quelle plus belle scène de musique que celle du crépitement de la saucisse sur le grill ? Ah, bon. Plus sérieusement, Lausanne est une ville truffée de ravissants lieux où il est possible de pique-niquer, de jouer ou encore de se baigner gratuitement.
Bon, Farniente, c'est joli, à l'infini, un néologisme. Tu nous dresses donc un répertoire de ces lieux, Fabio ?
Avec plaisir. D'abord, les pelouses où on se rencontre pour les apéros, les pique-niques et les jeux. Le parc de Milan, le parc de Valency, la Brouette à côté de Chaudron, le parc de Mont-Repos, celui de l'Ermitage, le parc du désert. Sinon, il y a aussi le lac de Sauvablin, sympa et familial, mais aussi l'esplanade de Montbenon, les jardins du Denantou, au bord du lac, et bien sûr les prairies de Vidy.
Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Lausanne offre également des piscines en quartier et en plein air.
Et elles se trouvent notamment à Bellevaux, dans le quartier de Boisy, à Montéton et au Vieux-Moulin. Ce sont de vraies et belles piscines accompagnées par des pataugeoires pour les plus petits. Sur le site de la ville, on peut trouver horaires, emplacements et autres informations utiles.
Bon, on part de l'idée qu'il il pourrait pleuvoir un de ces quatre. Donc on pourrait décider d'aller s'enrichir l'esprit. On fait quoi alors ?
Oui, effectivement, le vendredi 12, il me semble qu'il va faire très moche. Et on pourrait aller au cinéma City Club de Puy pour un ciné-concert de haute voltige. Une soirée qui réunit le brass band du Bénin, Gambé, et le documentaire du journaliste et réalisateur Arnaud Robert qui en a fait le portrait.
Il fera 29 degrés, c'est le temps d'aller dedans. Donc ouais. Projection et concert ensuite ou c'est le contraire ?
À 19h30, la projection de Gambé, le docu d'Arnaud que Arnaud Robert a réalisé en 2015, et à 21h, le concert de cette fanfare africaine.
Ah, c'est rigolo, quand on parle de brass band, je pense plutôt au carnaval de Monté ou au Brandon de Moudon, mais pas nécessairement une fanfare africaine, c'est plutôt rare en Afrique, non ?
La culture du brass band au Bénin, en tout cas, où les cuivres ne font pas partie de la famille des instruments africains, a été introduite par les Français à travers notamment les fanfares militaires. Les colonisateurs partis, la tradition est restée. Le Gambé Brass Band, qui est composé de 8 musiciens, est né en 1994 et son style, c'est la fusion entre le jazz et la musique traditionnelle béninoise. Le Nigeria, de Fela Kuti n'étant pas très loin, l'afrobeat est bien entendu aussi fortement présent dans les compositions de la fanfare. Mais on en écoute un passage.
Gambé, la musique en documentaire et en live ce vendredi 12 juin dès 19h30 au City Puy en collaboration avec nos amis du Festival Cinéma d'Afrique de Lausanne qui fête cette année ses 10 ans. On continue à soigner l'esprit et on se rend les 12 et 13 juin à l'espace Dickens.
Où Alliance Sud organise 2 jours de conférences et ateliers sur le thème enjeux du changement climatique avec comme invité Hervé Kempf, l'ex-journaliste du Monde, désormais indépendant à reporter.net. Vendredi 12 à 18h30, la conférence de Hervé Kempf, les médias et les enjeux du changement climatique. Et samedi 13 de 10h à midi, un atelier collectif, comment agir, le changement climatique, l'individu et l'État. Toujours avec Hervé Kempf et Adèle Torrance, coprésidente des Verts Suisses.
Alors la participation aux ateliers est gratuite, mais l'inscription est obligatoire à doc@alliancesud.ch, doc@alliancesud.ch. Alors, qu'est-ce qu'a Alliance Sud, Fabio ?
C'est une communauté de travail qui regroupe Suissaide, Action de Carême, Pain pour le Prochain, Helvetas, Caritas et les Pères, et dont le but est d'influencer la politique de la Suisse en faveur des pays les plus pauvres. À Lausanne se trouve notamment un des centres de documentation pour toutes les questions Nord-Sud qui se trouve à l'avenue de Cour, gratuit et ouvert au public.
Espace Dickens, donc avenue de Charles Dickens, 6 à Lausanne, les 12 et 13 juin. Un survol d'autres manifestations dans cet agenda express.
Une fois n'est pas coutume, on se rend en Oron. Pardon. Ce jeudi pour la projection de l'Oasis des mendiants de Carole Pirker et Janine Weber, documentaire qui essaie de comprendre comment on perçoit l'arrivée et l'installation des populations roms au cœur des villes d'Europe occidentale.
Jeudi 11 juin à 20h au cinéma d'Oron en présence des réalisatrices.
Samedi 13 à la maison de quartier Sougar, projection de Rital entre autres, un documentaire de Vincenzo Di Marco qui est un enseignant italien de deuxième génération et qui a pris une année sabbatique pour faire ce film. Rital, entre autres, aborde le problème de l'intégration des immigrés italiens de deuxième génération qui ont vécu à Lausanne dans les années 60 et 70.
À 20h, entrée gratuite pour ce film témoignage à travers le souvenir d'enfance de ces Rital, comme on les appelait à l'époque. Merci Fabio pour cet agenda, comme d'habitude, approximatif, inachevé et partiel.
Ouais, comme d'habitude.
Ouais.
Bon, j'aurais encore voulu vous parler de quelques livres que vous pourriez prendre, par exemple, sur les pelouses lausannoises,
ah, oui,
qu'on entend en tapis. Mm-hmm. Mais vu qu'on n'a pas le temps, ça sera pour la semaine prochaine.
Bon, bah, on se réjouit déjà. À la semaine prochaine, Fabio, et merci. Allez, il est tout presque 19h. Coup d'œil à ce qu'on a parlé ce soir, on avait l'aménagement participatif avec Fabio et Gabriel. Petite mise en bouche. On a également parlé de l'espace proche aidant, de l'espace mosaïque et du Congo avec des comptes. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast à partir de demain à l'adresse que vous connaissez bien, www.django.fm. Mardi prochain, nous retrouverons l'AVLL, l'Association Vietnamienne Libre de Lausanne, et nous parlerons du prix Le Courrier. Tous les détails à suivre et à retrouver sur notre page django.fm et sur Facebook. Allez, je profite, il reste encore 25 secondes pour remercier l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Petit travail en l'ombre avec Nico à la technique, Cindy et PA et au web, et Baptiste bien sûr pour la gestion de la radio. Pour réécouter l'intégralité de cette émission, rendez-vous samedi matin sur le coup des 11h et dimanche à 13h. Pour le direct, on compte sur vous mardi prochain à partir de 18h. Belle suite de soirée à l'écoute de Django, il est 19h.